secretos de tu alma. Dime cuál es el camino de tu divino amor.
Les racines du ciel. Une émission de Frédéric Lenoir et Lélie Envard. Réalisée par Clotilde Pivin, préparée par Marie Dalquier avec à la prise de son Stéphane Touvenin. Aujourd'hui, nous recevons Marc Balanfa pour parler de la philosophie indienne au fil des jours.
Les sages évoquent un figuier éternel. Ses racines sont tournées vers le ciel, ses branches vers la terre, et ses feuilles sont les hymnes sacrés. Le connaître, c'est connaître le sacré.
Marc Balanfa, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Lélie.
Bonjour Frédéric. Bonjour Marc Balanfa. Et merci de nous avoir suggéré cette ouverture du chant 15 de la Bhagavad Gita qui illustre si bien notre émission Les Racines du Ciel avec ce figuier qui a ses racines plongées dans la terre et ses branchages qui montent vers le ciel. Marc Balanfa, vous êtes agrégé de philosophie, professeur de philosophie en classe préparatoire aux grandes écoles, mais aussi docteur en histoire des religions et spécialiste de la philosophie indienne classique, comme en témoigne d'ailleurs votre bibliographie. En effet, vous avez publié chez Ellipse « Introduction aux philosophies de l'Inde », mais aussi « Vocabulaire des philosophies de l'Inde ». Et chez Garnier Flammarion, vous avez publié une nouvelle traduction avec une très très belle introduction de la Bhagavad Gita. Et en fait, ce qui nous a donné envie de vous inviter, c'est une conférence que vous avez donnée à la Fédération nationale des enseignants de yoga sur les points communs entre la sagesse antique et la philosophie indienne, dans laquelle, au-delà des grandes envolées métaphysiques, vous voyez en fait une sagesse praticable au quotidien qui ne nous est peut-être pas si étrangère que nous pourrions le croire quand nous pensons à l'Inde en termes plus religieux que philosophiques.
Alors parlez-nous de la philosophie indienne. Qu'est-ce que vous appelez la philosophie indienne ?
Alors j'appelle la philosophie indienne, si on reprend un peu l'image donc du début du chant 15 de la Gita sur cet arbre qui prend ses racines dans le ciel, je pense que c'est une très belle métaphore de ce que peut être la philosophie indienne, c'est-à-dire trouver ses racines dans le ciel. Au lieu de les chercher dans la terre comme le ferait n'importe quel être vivant, c'est en quelque sorte cette inversion qui est en plus pour moi la définition de la spiritualité. Au lieu d'aller chercher ses racines dans la terre, dans le sol, comme le font tous les êtres vivants, un être dit spirituel ou dit réalisé, ou dit sage, c'est celui qui va chercher dans le ciel ses racines et qui puise son aspiration dans le ciel. Après, évidemment, je dirais que la philosophie indienne, elle a plusieurs définitions possibles de ce ciel. Mais ce qu'il y a de commun à tous ces courants qu'on appelle aujourd'hui... je dirais globalement la philosophie indienne, c'est qu'il cherche à se libérer de ce que Simone Veil appelait la pesanteur pour justement s'élever vers le ciel et pour chercher une nourriture dans le ciel.
Alors, dans la tradition occidentale issue des Grecs philosophiques, on a tendance à dire effectivement que la philosophie procède par des raisonnements, par des discours et non pas par des croyances. Est-ce que vous diriez la même chose pour la philosophie indienne ou c'est plus compliqué ?
La philosophie indienne n'exclut pas du tout le discours ni le raisonnement, au contraire. Hein, les brahmanes comme les bouddhistes étaient de grands dialecticiens, de grands logiciens, mais ils savaient que ce n'était qu'un organon, qu'un instrument, au service d'une sagesse. Donc ce qu'ils cherchent, eux, c'est toujours libérer l'être humain de la pesanteur, de ce qui le tire vers le bas, et l'élever, au sens, je dirais, aussi bien littéral qu'au sens métaphysique, trouver une nourriture qui lui permette d'échapper à tout ce qui le tire vers le bas.
Oui, mais à travers à la fois donc des raisonnements, mais aussi, il y a aussi tout un certain nombre de croyances fondamentales dans l'hindouisme qui participent, j'imagine, à ce que vous appelez la philosophie indienne, croyances dans le karma, dans la transmigration des âmes, dans le brahman. Expliquez-nous peut-être le fond commun, si vous voulez, de croyances qui sont quand même liées à cette dimension de recherche philosophique.
Alors, si vous voulez, là, c'est assez complexe à expliquer parce qu'au fond, on ne sait pas dans quelle mesure les textes qui évoquent le Karman relèvent de la croyance ou d'une forme de pratique. Par exemple, on voit très bien que dans les premiers textes qui évoquent la théorie du Karman, qui sont les Upanishads, donc des textes écrits probablement au 6e siècle avant notre ère, bon, le Karman apparaît effectivement comme une espèce d'enseignement secret réservé à quelques initiés, et pas nécessairement d'ailleurs venant des brahmanes, mais pouvant venir aussi des princes ou des rois. Et on se rend compte que c'est plus qu'une croyance, c'est pour eux associé à une forme de métaphysique de la vie, une forme de vision du monde. Je vais vous donner un exemple, toujours sur la spiritualité. En Occident, on a tendance à penser, quand on lit les grands mystiques, par exemple occidentaux, mystiques européens, qu'une quête spirituelle se fait dans, je dirais, dans une vie humaine. Or, quand on lit les textes indiens et les textes bouddhistes ou les textes brahmaniques, on comprend qu'on n'est pas du tout dans la même échelle temporelle. C'est-à-dire que la quête de la sagesse en Inde, elle se fait sur plusieurs siècles. Elle se fait sur des centaines ou des milliers d'années. D'où l'idée, au fond, que le Karman, c'est l'explicitation de cette idée que la sagesse, ce n'est pas dans une vie qu'on l'acquiert, mais que c'est au fil des années, hein, au fil des siècles, et peut-être même au fil de cycles cosmiques. Donc on n'est pas du tout dans la même échelle temporelle, voyez ? C'est-à-dire que moi, si je travaille toute ma vie pour atteindre la sagesse, je sais très bien que ce n'est pas moi qui vais l'atteindre, mais que c'est un autre être qui va bénéficier de ma quête spirituelle et qui lui-même travaillera à la quête d'un autre être, etc. Et puis, bon, on sait pour quelle raison, au bout de ce qu'ils appellent un mûrissement, un jour un être va s'accomplir, va se réaliser, mais parce qu'il va bénéficier lui-même de tout ce qu'on fait des centaines et des milliers d'êtres avant lui. Vous voyez ? On n'est pas donc du tout dans la même perspective. Donc je pense que c'est dans cette perspective, je dirais pluriséculaire, que le Karman prend son sens. Parce qu'au fond, même quand j'étais en Inde et que j'interrogeais de grands maîtres indiens, quand vous leur demandez « Est-ce que vous croyez vraiment au Karman ?», on sent que ça les embarrasse. Parce qu'y croire, je dirais de façon naïve, ils ne peuvent pas y croire de façon naïve. Donc il faut essayer d'aller un peu plus loin que la croyance naïve, qui est la croyance populaire, que par exemple je me suis réincarné dans un animal ou que dans une vie future je serai réincarné dans un animal. Ça, je dirais que c'est la croyance populaire. Eux, je pense qu'ils veulent aller au-delà, c'est-à-dire l'idée que, puisque je ne peux pas tout faire dans une vie, il faut penser qu'il y a des gens qui ont préparé ce que je suis en train de faire et que moi-même, je vais préparer ce que d'autres feront après moi.
Alors, est-ce que ce serait ce que vous venez de dire ? Donc, effectivement, le constat qu'on ne peut pas, dans une vie, s'accomplir et atteindre la sagesse ultime, ou est-ce que ce n'est pas aussi le fruit d'une expérience intérieure qui serait ce qu'on pourrait appeler ce lâcher de l'ego, qui fait qu'on sent que notre individualité, la construction de notre personnalité comme une individualité, finalement, est une illusion et qu'on participe à quelque chose de beaucoup plus large, qui est cette grande aventure de la conscience, et qu'on n'est qu'une goutte d'eau dans un océan de cette conscience qui progresse.
Ah, je vous rejoins complètement sur ce point. C'est les deux, si vous voulez, les deux idées vont parfaitement ensemble. C'est vrai que vous le dites, et dans la Bhagavad Gita, par exemple, ça apparaît très clairement. Si l'on ne met pas son moi de côté, si l'on n'arrive pas à dépasser l'obstacle qu'est le moi, on ne peut pas effectivement sentir à quel point on s'inscrit dans cette chaîne qu'ils appellent la chaîne des actes et qu'on appelle, nous, la théorie du Karman. Effectivement, les deux choses sont parfaitement complémentaires.
Oui, alors cette question, justement, en réalité, c'est ce qui fait que c'est de la philosophie, puisque la question est de savoir qui je suis, qu'est-ce que la conscience, qu'est-ce que l'identité, qu'est-ce que l'être. En ce sens, ça leur accroche à ce que nous appelons la philosophie. Peut-être que la difficulté vient du fait qu'en Occident, on a une tendance à vouloir absolument séparer de manière assez récente d'ailleurs, parce que dans le temps, la philosophie n'était pas séparée de la théologie d'une certaine façon. Mais on veut aujourd'hui dire la philosophie c'est une chose, la théologie en est une autre. En réalité, si je vous ai bien lu, en Inde, il n'y a pas de rupture. C'est un même mouvement de la pensée qui chemine vers la connaissance de soi et donc du monde.
Il n'y a pas de rupture parce que pour les Indiens, au fond, tout vient de la parole. Non seulement il y a des philosophies de la parole en Inde, mais je dirais que c'est une idée qui traverse toute la culture indienne. Tout est d'abord parole. Donc, et cette parole peut être la parole sacrée, donc c'est la parole qui va fonder les Védas, mais cette parole peut être ensuite une parole mythique, le Mahabharata, le Ramayana. Cette parole peut être ensuite une parole philosophique, peu importe. Donc au fond, et c'est cette idée que, puisque tout est parole, il faut donc réfléchir sur la parole. Si on est un théologien, on réfléchit sur la parole théologique. Si on est un philosophe, on réfléchit sur la parole philosophique. Si on est un écrivain, un artiste, on réfléchit sur le Mahabharata en tant que récit littéraire, parole littéraire. Et voilà pourquoi les philosophes indiens, la première chose qu'ils commencent à faire dans leur vie, c'est de la grammaire. Parce que la grammaire, pour les Indiens, est éminemment philosophique. Comprendre comment la langue est construite, c'est réfléchir sur la langue. C'est donc déjà entrer dans la philosophie. Parce que pour eux, tout est tissé par la parole.
Et là, en ce sens aussi, c'est hautement philosophique, puisque ça veut définir et dire et indiquer vers quelle direction, après, il faut aller dans la pratique.
Absolument. Et puis parce que je trouve ce à quoi je suis très sensible dans la philosophie indienne, c'est qu'elle revient sans cesse sur cette définition de l'homme en tant qu'être de parole. Ce qui ne revient pas exactement à la définition aristotélicienne, l'homme est un animal raisonnable, l'homme est un animal de logos. Non, c'est pas exactement ça. Là, c'est vraiment la parole en tant qu'actualisation de ce que je suis. Actualisation aussi bien de mon corps, de mon souffle, parce qu'on ne parle pas si on n'a pas une certaine maîtrise du souffle, et parole comme efficace. Il y a toute une réflexion ritualiste, par exemple, dans la philosophie indienne, qu'on peut trouver aussi d'ailleurs dans d'autres cultures, sur l'efficace de la parole au moment, par exemple, d'un rituel religieux. Par exemple, un brahmane, quand il commence sa journée, par une oblation dans le feu, en versant quelques gouttes de lait dans le feu et en récitant un mantra. Et le mantra, qu'est-ce que c'est ? C'est de la parole sacrée. Donc on revient toujours à ce fondement.
Oui, et alors moi je vous ai apporté un extrait des sept Upanishads, dans lequel, justement, alors il est question de vénération, et on va voir que ça rejoint ce qu'on vient de dire. Alors c'est une définition de l'âme que je trouve éminemment poétique et en même temps éminemment philosophique. Et vous allez peut-être nous en donner un commentaire, alors bien que ce soit déjà lui-même une sorte de commentaire qui est fait sur la notion même d'Atman. Mais voilà, on va voir comment tout s'articule, comment la connaissance de soi dans un sens philosophique et l'expérience spirituelle s'articulent. Il faut vénérer le Brahman en tant qu'il est la réalité. Or, l'homme est fait de force spirituelle. Cette force, il la retrouve dans l'autre monde, tel qu'il l'avait quand il vivait. Il faut vénérer l'âme qui est faite de la pensée, dont le corps est souffle, la forme matière, l'être espace. L'âme prend les formes qu'elle veut, elle est aussi rapide que l'esprit, véridique lorsqu'elle conçoit, véridique lorsqu'elle éprouve, douée de toutes les odeurs, de toutes les saveurs, elle emplit tous les orients, elle pénètre toute chose et cependant reste muette. Tel un grain de riz ou d'orge ou de millet, oui, aussi menu qu'un fragment de millet est ce personnage fait d'or qui habite dans le fort intérieur. Il resplendit comme un feu sans fumée. Il est plus grand que le ciel, plus grand que l'espace, plus grand que la terre, plus grand que tous les êtres. Il est l'âme du souffle vital, il est mon âme. À ma mort, c'est cette âme que je rejoindrai. Pour qui sait ainsi, il n'y a plus de doute. Ainsi parla Chandiliya, et ainsi en est-il.
Là, on a bien justement cette idée que l'Atman, c'est ce principe impersonnel que je reconnais en mon être à partir du moment où j'ai dépassé le moi. Et c'est ce principe impersonnel qui me relie à tout ce qui existe. Et c'est ça la grande quête, effectivement, des Upanishads, et qui sera ensuite le fil conducteur, en quelque sorte, de toute la philosophie indienne, et qu'on retrouve dans le bouddhisme, d'ailleurs, aussi, mais dit autrement, cette idée que on est à la fois dans la quête d'une réalité la plus impersonnelle, mais en même temps, dans la mesure où je me reconnais dans cette réalité impersonnelle, elle devient aussi l'intime de mon intime, elle devient aussi ce qu'il y a de plus personnel en moi. Cette conjonction du personnel et de l'impersonnel qui est quelquefois difficile à comprendre, parce qu'en un sens, elle est presque irrationnelle, en tout cas au-delà du rationnel, en tout cas d'une logique purement binaire.
Et c'est-à-dire, en fait, elle est au-delà d'une forme de paradoxe qui est au cœur de toute expérience spirituelle.
Absolument, oui. Et c'est ce qui fait, je dirais, en même temps, le point commun de toutes les quêtes spirituelles, c'est qu'à un certain moment donné, on est obligé par sa propre pratique, parce qu'il faut bien voir que ces textes-là renvoient aussi à des gens qui pratiquaient ce qu'on appelle le yoga, c'est-à-dire une forme d'ascèse. Et donc, et c'est parce que dans la pratique, ils se sont rendus compte qu'à un certain moment donné, effectivement, on peut dépasser son moi Et on accède à un autre plan de réalité, un autre plan d'existence.
On retrouve ça dans tous les grands courants spirituels de l'humanité. Exactement. Quand Paul dit « ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi », ça veut dire qu'il a un autre niveau d'identité parce qu'il s'est relié à un principe supérieur. Et donc effectivement, le fondement des Upanishads, c'est cette identité entre l'Atman et le Brahman. Tu es cela. Et alors après les Upanishads, qui sont des textes fondateurs essentiellement de la spiritualité, de la mystique, de la philosophie indienne, il y a un texte très important dont j'aimerais que vous nous parliez maintenant, qui est la Bhagavad Gita. Alors déjà, avant qu'on rentre dans le contenu philosophique de ce texte, qui est peut-être le livre, en tout cas un des livres les plus importants de la spiritualité indienne, expliquez-nous où on trouve ce livre, dans quel récit, dans quel grand texte littéraire il apparaît, et à peu près à quelle époque.
Alors ce texte a eu un destin assez inhabituel, parce qu'au fond on est au cœur donc d'une immense épopée, hein, jamais écrite, hein, plus de 100 000 vers, donc, qui s'appelle le Mahabharata. Donc on est dans le sixième chant, le Mahabharata en compte 18 en tout.
Et c'est au moment, époque il a été
Donc deuxième siècle. On pense que ce texte est probablement composé au deuxième siècle avant notre ère. Hein. Le Mahabharata lui-même ayant été composé entre le troisième avant et le troisième après. C'est sur six siècles qu'on a composé cette immense épopée. Donc c'est un travail monumental. Et puis, donc on est à la veille de la grande bataille décisive donc, entre les cousins ennemis. Donc bataille au fond aux dimensions cosmiques, on l'a très vite compris, ça Madeleine Birdo l'a très bien expliqué dans son livre sur le Mahabharata. Et puis tout d'un coup, le guerrier qui est censé être le guerrier modèle est pris de défaillance. Il dit non, je ne veux pas combattre mes ennemis, et c'est le début de la Gita. Et au fond, ce qu'on ne comprend pas, c'est comment un passage qui est relativement mineur a pris au fil des siècles une importance décisive, au point que, à l'époque où Shankara le commente, c'est-à-dire au 8e siècle de notre ère, ce texte est quasiment indépendant du Mahabharata. C'est-à-dire qu'on peut le lire comme s'il était parfaitement autonome, en oubliant qu'il s'insère dans la trame d'une épopée. Voyez. Et donc, rien ne, si vous voulez, ne prédisposait au départ ce texte à devenir probablement effectivement le plus beau texte de la spiritualité indienne.
Et alors justement, qu'est-ce qui fait qu'il est devenu ce texte, qu'il a pris cette importance? Quel est le cœur de son enseignement?
J'ai essayé de répondre évidemment à cette question dans mon introduction en disant que c'est son contenu lui-même au fond. C'est-à-dire que peu à peu, en le lisant, les gens ont compris qu'il y avait quelque chose d'important qui se disait là. Que ce n'était pas un passage comme les autres. Et quand Shankara le commente au 8e siècle, donc Shankara donc, qui est un des plus grands donc, philosophes de la tradition indienne, et il sait qu'il y a eu des commentateurs avant lui, mais il n'en dit rien. Donc il n'est probablement pas le premier commentateur, d'autres l'ont précédé. Mais c'est lui qui enfin dit, bon, il faut lire ce texte attentivement, c'est presque un texte philosophique, même si au départ ce n'est qu'un texte poétique, un texte épique. Il dit, voilà, il a une dimension philosophique.
Ramarabne shalo tao abhyavartaya tao yogi tishrao atai shaya tai ke shao bhakchirao.
Vous êtes sur France Culture dans l'émission Les Racines du Ciel. Nous sommes en compagnie ce matin de Marc Balanfa et nous parlons de la philosophie indienne au fil des jours. Marc Balanfa, vous avez traduit et présenté la Bhagavad Gita chez Garnier Flammarion. Lélie.
Peut-être qu'il faut dire un mot aussi de la forme littéraire que prend cette Bhagavad Gita, qui est quand même différente du reste du Mahabharata, en ce sens où c'est au sein d'une épopée, comme vous l'avez dit, c'est un dialogue.
Alors c'est un dialogue, effectivement, donc, entre Arjuna, qui est l'un des cinq frères Pandava, donc, qui est la famille qui va remporter cette victoire, et donc son cocher, Krishna, qui n'est donc qu'un cocher au départ. Mais on avait déjà compris dans d'autres chants précédents du Mahabharata qu'il avait une dimension en quelque sorte divine. Mais ce n'était pas encore apparu parfaitement. Donc si vous voulez, c'est dans ce petit passage qu'on appelle la Bhagavad Gita aujourd'hui, c'est-à-dire le chant du bienheureux, hein, ou le chant du Seigneur, que son cocher va véritablement se révéler à lui comme étant le Dieu suprême, comme étant le Dieu absolu. Donc ce qui est tout à fait troublant dans ce passage, c'est que le guerrier donc, qui dialogue avec donc le Dieu Krishna, et qui comprend donc petit à petit effectivement que c'est un Dieu qui est en train de s'adresser à lui, qui est en train donc de lui dispenser un enseignement à la fois religieux et philosophique, théologique. Donc ce guerrier, au fond, c'est celui auquel on s'identifie. C'est-à-dire que, en lisant la Gita, c'est comme si, je dirais, un Indien ou un Hindou était en train de dialoguer lui-même avec le Dieu. C'est-à-dire que c'est peut-être aussi ce qui a fait la fortune de ce texte, c'est qu'au fond, c'est un des rares textes où tout d'un coup, le dévot ou le fidèle entre dans une espèce de familiarité, de communion avec le Dieu et reçoit directement, en lisant le texte, un enseignement qui est dispensé au guerrier, mais qui est en réalité donc dispensé au lecteur de ce texte. Alors cet enseignement se dispense sur plusieurs niveaux et sur plusieurs plans. Je dirais que le premier plan, et qui est probablement le plan le plus direct, c'est le plan de l'ascèse. C'est-à-dire le mot yoga en sanskrit. On peut vraiment lire la Gita uniquement comme un manuel d'ascèse, c'est-à-dire apprendre à se maîtriser, apprendre à discipliner ses sens, apprendre à dépasser son ego. On peut uniquement le lire comme un manuel de yoga. Yoga au sens indien, c'est-à-dire l'ascèse, la pratique, l'exercice. Sans cesse dans le texte, il est dit « il faut t'exercer à pratiquer, il faut t'exercer à te dompter ». C'est sans cesse le mot qui revient. Et le yoga, qui est probablement donc le mot le plus important de la Gita, le yoga peut se traduire par ascèse, mais peut se traduire aussi par détachement, par perfection, par renoncement. Donc il y a plusieurs traductions possibles du yoga. Mais ce qui est important, c'est cette idée que, voilà, on ne peut pas comprendre cet enseignement si on n'essaie pas immédiatement de le mettre en pratique. Et c'est ça, évidemment, qui est au cœur de la philosophie indienne. C'est-à-dire qu'une parole, comme je le disais tout à l'heure, dans la mesure où elle a une efficacité, recevoir une parole, c'est donc aussi entrer dans une certaine pratique. La parole ne fait jamais, en Inde, seulement appel à l'intellect humain, elle fait aussi appel à l'agir humain, au corps humain. Parce qu'une parole, étant donné qu'elle a une forme de matérialité, étant donné qu'elle est portée par un souffle, une parole pour un Indien, immédiatement, elle fait agir l'autre. Donc, quand je reçois une parole, je dois montrer aussi en quel sens elle me fait agir.
Alors, toute la spiritualité indienne est traversée par cette idée d'ascèse, cette idée de maîtrise de soi, de contrôle à la fois des souffles, mais aussi des passions, des émotions, etc. Qu'est-ce qu'il y a d'original dans ce texte qui va plus loin ou qui explicite quelque chose qui n'est pas dit ailleurs?
Si on revient au point de départ de la Gita, donc Arjuna dit non, donc Arjuna qui est le guerrier modèle, dit non, non, moi je ne veux pas combattre, ce n'est pas possible, je ne peux pas tuer mes cousins, je vais commettre un crime abominable. Et Arjuna, et donc Krishna va lui faire comprendre, ce qui est sans doute l'originalité éthique de la Gita, qu'on peut agir en se détachant du bénéfice de son acte. C'est vraiment le grand enseignement éthique. Donc après ce que je viens d'exposer, qui est l'enseignement de la pratique, l'enseignement du yoga, le deuxième volet important de la Gita, c'est l'enseignement éthique. C'est-à-dire être capable d'agir en se détachant du bénéfice de son acte. C'est-à-dire en se détachant complètement de l'acte lui-même. Et j'ai pu moi-même, si vous voulez, parce que j'ai passé 3 ans avec ce texte, à le traduire, et j'ai compris effectivement à un moment que, en quelque sorte, on s'élève, on s'allège. À partir du moment où on comprend qu'on peut agir en se détachant de son acte, en quelque sorte, on est libéré. On est libéré parce qu'on se dit tout d'un coup, mais oui, pourquoi est-ce que sans cesse je voulais m'investir, sans cesse mettre mon moi sur la table? Mais non, on n'a pas à mettre son moi sur la table. On peut complètement se détacher, mais ça ne nous empêche pas d'agir.
Oui, c'est vrai que c'est ça la grande originalité, c'est qu'il lui dit, il faut que tu agisses. Et Arjuna lui donne des arguments au départ en disant, mais non, il faut se retirer de l'action, il ne faut pas, etc. Et il dit, chacun a un devoir. Évidemment, ça renvoie aussi à la société de caste. Il dit, toi, tu es guerrier, donc ton devoir est de faire la guerre. Donc, c'est vrai que l'originalité est dans le fait qu'il faut se jeter dans la bataille, littéralement, si j'ai bien compris. Et c'est vrai ça. Que c'est saisissant et ça donne une idée aussi que peut-être que la première des vertus, c'est le courage.
Et c'est là où vraiment la Gita, effectivement, est un texte exemplaire et unique, parce que tout ce que j'ai dit précédemment, par exemple, sur l'ascèse, se relie parfaitement à ce détachement. Parce que quelqu'un qui n'a pas pratiqué l'ascèse, quelqu'un qui ne se discipline pas, est incapable d'agir en se détachant. Donc on voit vraiment, effectivement, que les deux aspects sont complètement complémentaires. L'aspect éthique est complémentaire de l'aspect ascèse. S'il n'y a pas l'ascèse, on ne peut pas réaliser cette éthique.
Au fond, la guitare répondait à un dilemme de la vie spirituelle, à savoir, exactement, est-ce que si on veut vraiment progresser vers la libération, est-ce que le mieux, c'est de ne pas rester dans l'inaction, exactement, et donc de contempler et de ne pas se mouiller, on va dire. Donc là, la guitare nous dit, non, mouillez-vous, quel que soit votre métier, votre activité, etc., impliquez-vous, mais en étant détaché, c'est-à-dire en ayant un recul par rapport à votre action pour ne pas vous identifier finalement à l'acte et ne pas rechercher des résultats personnels de gratification ou de...
Exactement.
Ou pas être sensible à la critique si elle arrive ou à l'échec.
Oui, on comprend qu'on est vraiment dans un moment historique très important probablement dans l'Inde de cette époque, donc 2e siècle avant notre ère, parce qu'on sait que dès l'époque des Upanishads, il y avait un grand nombre donc, d'ascètes qui s'étaient retirés dans les forêts et qui pratiquaient le yoga. Bon, ça, les Upanishads nous en parlent. Puis là, on a vraiment l'impression qu'au moment où la Gita a été composée, il y avait voilà, cette idée que ben non, il faut quitter la vie sociale, il faut quitter l'action, tout ça. Soyons des ascètes, nous cessons d'agir et cherchons la libération. Et la Gita dit, mais attention, il ne faut pas chercher sa libération en oubliant les actes, parce que nous faisons partie du monde, parce que nous sommes engagés dans le monde. Et parce que le Dieu lui-même agit. Si le Dieu n'agissait pas, le monde ne subsisterait pas de lui-même. Donc c'est effectivement pour résoudre une espèce de contradiction dans laquelle les renonçants étaient en train de se mettre eux-mêmes. Parce que certains, visiblement, étaient tentés par l'inaction et par la critique de toute action, en particulier l'action rituelle. Et la Gita dit, mais non, on peut trouver une solution, c'est agir dans le détachement.
Alors peut-être qu'on peut faire entendre la Gita elle-même, dans laquelle donc, le Dieu dit... Fais de l'action ta préoccupation principale, sans jamais en attendre de bénéfice. Que le bénéfice de l'acte ne soit pas ta motivation, pas plus que la complaisance dans l'inaction. Exercé à l'ascèse, accomplis tes actes avec détachement. Qu'il te soit égal de réussir ou d'échouer. Avoir une âme égale est le propre de l'ascèse. Car l'acte est de loin inférieur à l'exercice de la pensée, en elle cherche refuge. Pitoyables sont ceux que le bénéfice motive. Exercés à cette pensée, on perd de vue les actes, bien ou mal faits. Par conséquent, entraîne-toi à cette discipline, le détachement dans les actes, voilà la perfection. Quand ils ont acquis par la pensée cette maîtrise, les sages se désintéressent du bénéfice des actes et se libèrent du lien des renaissances. Ils gagnent la demeure de l'immortalité. Quand ton intelligence aura traversé l'écran de l'illusion, alors tu te détourneras avec dégoût des savoirs sacrés, ce qu'il faut en entendre et ce qui en a été compris. Quand la pensée, égarée par la tradition sacrée, trouvera la stabilité et se tiendra immobile dans la paix intérieure, à ce moment, tu atteindras le détachement.
Oui, là on est vraiment dans la quête spirituelle et qu'on retrouve, je pense, dans un grand nombre de traditions. On voit bien combien la quête spirituelle est encore autre chose que la quête simplement religieuse. Parce que là, il y a une critique à peine voilée,
oui,
effectivement,
incroyable,
même très explicite des Védas, des Brahmanes, et d'un savoir brahmanique. Parce qu'effectivement, au fond, les Brahmanes disaient « Accomplissez des sacrifices et vous obtiendrez un paradis », ce qu'ils appelaient le Svarga, et donc vous serez récompensé. Mais la Gita dit « Mais non, il faut aller au-delà de ça. Il ne s'agit pas d'être récompensé, il ne s'agit pas d'agir pour obtenir une rétribution des dieux. Non, il faut simplement agir parce que... on est dans un monde et que ce monde ne peut perdurer et ne peut se sauvegarder et ne peut connaître le bien-être que si des hommes agissent. Donc c'est à la fois, effectivement, je dirais, un éloge de l'action, mais un éloge de l'action dans le détachement.
Et d'une certaine façon, ce n'est pas loin de des sagesses antiques que vous enseignez par ailleurs en tant que professeur de philosophie. Cette idée qu'il faut lâcher le résultat, faire ce qu'on a à faire et rester...
Exactement. Quand j'ai traduit la Bhagavad Gita, j'étais très imprégné des grandes thèses de Pierre Hadot. Bon, quand il était professeur au Collège de France, effectivement, pour moi, il a été très important parce qu'il a vraiment rappelé que la sagesse dans la Grèce ancienne, c'était aussi une ascèse.
C'était un exercice spirituel, absolument.
Exactement, c'était un exercice spirituel. Et je dis souvent que parmi les Grecs, ceux qui peuvent être rapprochés, par exemple, d'un texte comme la Gita, ce sont les stoïciens. Il n'y a pas de doute qu'on trouve chez Marc Aurèle ou chez Sénèque ou chez Épictète des textes d'une très grande beauté et qui peuvent vraiment être mis exactement sur le même plan que la Bhagavad Gita.
Surtout Marc Aurèle, qui est aussi un roi, un empereur qui est dans l'action, qui doit faire la guerre et qui se pose des questions et qui effectivement réfléchit à comment à la fois être dans l'action, dans son métier, dans faire ce qu'il a à faire, tout en étant dans une attitude spirituelle juste intérieurement et préserver sa citadelle intérieure.
Marc Aurèle et l'Arjuna de la Grèce, ou l'Arjuna et le Marc Aurèle de l'Inde.
Donc il faut relire les pensées de Marc Aurèle, qui sont très proches de ce texte. C'est vrai, je trouve qu'il y a vraiment des parallèles passionnants à faire dans toutes les sagesses du monde. On retrouve cette idée que vous avez très bien explicitée sur le détachement par rapport à l'action. On le retrouve vraiment aussi dans l'Évangile. On le retrouve, c'est vraiment très universel comme conception.
Mais c'est bien l'idée que, voilà, en même temps, si je continue le fil de ce que je disais au tout début, ça ne signifie pas que j'arriverai à cette réalisation dans une vie, mais en tout cas, je dois commencer à mettre en pratique un certain nombre de choses, parce qu'au moins d'autres en bénéficieront. Mais c'est cette idée que si, de toute façon, on n'essaie pas de mettre en exercice, de pratiquer, de toute façon, effectivement, on n'arrivera à rien. Donc c'est effectivement pas seulement une compréhension intellectuelle, c'est avant tout une mise en action.
Mais alors ça, cette dimension de temporalité, elle est vraiment propre à l'Inde, parce qu'on ne retrouve pas ça, effectivement, très peu chez les Grecs, certains un petit peu, mais très peu, et pas du tout, évidemment, dans le monde après monothéiste, où il y a beaucoup plus une dramatisation de cette vie, c'est-à-dire qu'il faut atteindre la sagesse ou la sainteté en une vie, ce qui, des fois, est un poids extrêmement lourd, alors que là, je pense, ça doit apporter un élément de décrispation.
Absolument.
Se bien dire sûr. Qu'on a des bons, on a peut-être des centaines de vies, qu'à la limite, c'est même pas nous qui allons continuer. Nous, on est un chaînon parmi d'autres pour participer à l'éveil de la conscience de l'humanité.
Oui, c'est une idée à laquelle j'ai été très sensible quand j'ai commencé à étudier la philosophie indienne. Voilà, cette idée que nous faisons partie d'une chaîne d'actes et qu'au fond, les actes que nous accomplissons dans cette vie ne sont possibles que parce que d'autres déjà en ont accompli avant nous. Si je peux parler, c'est parce que cette parole que j'actualise en ce moment, a déjà été prise par d'autres, qu'elle a déjà été entretenue par d'autres, magnifiée par d'autres. Donc c'est une idée à laquelle j'ai été très sensible, parce que effectivement, il me semble que dans la philosophie occidentale, on insiste moins sur cette idée que nous sommes effectivement un maillon d'une chaîne qui n'aura ni commencement ni fin, comme disent toujours les Indiens, donc d'une chaîne infinie, indéfinie, mais que cela ne doit pas nous empêcher, à notre niveau, de mettre en pratique un certain nombre de choses que nous comprenons.
Alors effectivement, dans la pensée occidentale, c'est assez peu présent, mais des personnages plus contemporains au XXe siècle, je pense à deux personnes, ont repris cette idée d'une autre manière. Je pense à Jung, avec l'idée de l'inconscient collectif. C'est-à-dire qu'on est issu d'une matrice, d'un inconscient qui a formé, qui a fait évoluer de manière collective l'inconscient. Et puis nous-mêmes, on est un maillon de cette longue chaîne et on doit participer à l'élévation de la conscience. L'essentiel pour Jung de la vie humaine, c'est de progresser dans la conscience et dans la compréhension. Est-ce que notre progrès servira aux autres? Et puis un autre, c'est Teilhard Chardin, avec son idée de noosphère. Et il croit vraiment aussi à un grand progrès de la conscience humaine, avec l'idée qu'il existe un plan. Alors, c'est pas scientifique, là on est sur une conception philosophique et théologique, qu'il appelle la noosphère, où la pensée de l'humanité progresse, et que toutes les pensées que nous avons, les prises de conscience, etc., vont dans un plan suprasensible, et qui fait que nos héritiers, ceux qui vont venir après nous, vont se connecter à toute cette conscience, c'est assez platonicien d'ailleurs, et vont hériter de tout ça, et que la pensée de l'humanité progresse collectivement.
Oui, c'est vrai que Teilhard de Chardin était vraiment un jésuite très intéressant qui est malheureusement aujourd'hui au fond assez peu lu et assez
tout à fait
étudié,
alors qu'il a dû être
parce qu'il a été aussi assez malmené quand même de son vivant
par l'Église,
par l'institution exactement, par l'Église. Mais effectivement, il y a des idées très 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 originales, très intéressantes chez lui.
Et qui rejoignent un peu l'Orient finalement.
Ah oui,
il y a
je
des
pense.
Ponts.
Bah, de toute façon, il avait été lui-même influencé par la Chine, hein, parce que bon, il a quand même vécu une grande partie de sa vie en Chine.
Vous êtes sur France Culture dans l'émission Les Racines du Ciel, en compagnie ce matin de Marc Balanfa. Nous parlons de la philosophie indienne au fil des jours. Et je rappelle la sortie de votre traduction de la Bhagavad Gita chez Garnier Flammarion. Lélie Anvar.
Alors, on a beaucoup parlé de la question pratique, qui est peut-être d'ailleurs le point qui rejoint le plus les universaux, donc d'où les comparaisons que nous avons pu faire. Mais il y a aussi une autre dimension dans la Bhagavad Gita qui est peut-être plus propre à la culture indienne, qui est une dimension que je pourrais qualifier presque de dévotionnelle, ou en tout cas qui va, quand je dis dévotionnelle, je ne le dis pas dans un sens péjoratif, je veux dire par là que c'est ce qui permet aussi d'entrer par la porte de la mystique, c'est-à-dire que c'est un texte philosophique qui en même temps ouvre sur la mystique, ce qui montre d'ailleurs qu'en Inde, à nouveau, il n'y a pas de séparation entre ces divers vécus, je dirais, de la vie spirituelle. Et là, peut-être, on est dans quelque chose qui est plus spécifiquement indien et qui est la relation avec le tout, avec l'absolu, avec le réel. Marc Balanfa.
Bah, si vous voulez, dans la Gita, on voit bien comment la quête de la sagesse se fait sur deux plans qui se chevauchent presque en permanence. C'est-à-dire qu'il y a le plan hérité des Upanishads, qui est le plan donc, du Brahman, de l'union entre l'Atman et le Brahman. Donc ça, c'est le plan de l'absolu, dans ce qu'il a de plus impersonnel. Et en même temps, ce plan est important parce que si je n'atteins pas ce plan de l'impersonnel, je ne peux pas comprendre tout ce qui me relie, effectivement, à l'univers. Mais d'un autre côté, on voit comment, dès donc, cette époque, le deuxième siècle avant notre ère, il y a un second plan aussi qui se dégage, qui est le plan, effectivement, dévotionnel, que vous appelez dévotionnel. Où là, on voit bien qu'on essaie de pallier sans doute un défaut du plan de l'absolu, qui est justement son impersonnalité. Parce que, bon, être, je dirais, dans le détachement le plus impersonnel peut avoir quelque chose d'insatisfaisant pour quelqu'un, au fond, qui souffre. C'est-à-dire qu'il faut partir aussi et revenir peut-être à la réalité indienne. Les textes philosophiques indiens disent toujours, et le bouddhisme ne dira pas autre chose, il faut partir de dukkha, c'est-à-dire de la souffrance, de la misère. Les êtres humains souffrent. Et quand un être souffre, on ne peut peut-être pas seulement lui dire, ben voilà, tu vas te détacher, tu vas atteindre un plan impersonnel. Il faut aussi lui donner une forme de réconfort. Or, ce n'est pas un hasard, au fond, si là on se tourne vers Dieu. Parce que le Dieu, et en particulier Krishna, dans toute l'Inde, c'est vraiment le Dieu de l'intimité. C'est le Dieu ami, c'est le Dieu qui réconforte. C'est le Dieu vers lequel on se tourne quand on cherche à ne plus désespérer de la vie. Donc ce Dieu, il va inscrire le plan du personnel. Je peux enfin entrer dans une relation personnelle avec l'absolu et pas seulement dans une relation impersonnelle. Et là, évidemment, le plan dévotionnel est indispensable. Et la Gita est probablement le premier texte, là aussi, dans la culture indienne, qui préfigure ce qui sera les grands courants dévotionnels, mais qui se développeront beaucoup plus tard, à partir du Xe siècle de notre ère.
L'ascète se discipline sans relâche. pur de toute tâche et découvre sans effort le bonheur infini d'éprouver l'absolu. Il se voit en tous les êtres et voit tous les êtres en soi. Maintenant qu'il a trouvé l'unité par l'ascèse, il porte un regard égal sur tout. Il me voit, c'est Krishna qui parle, il me voit en toute chose et voit toute chose en moi. Alors je ne disparais pas à ses yeux, il ne disparaît pas aux miens. L'ascète qui m'adore en tous les êtres, conscient de leur unité, où qu'ils vivent maintenant, il vit en moi. Il voit que tout se vaut à l'aune de l'absolu, bonheur ou malheur. On reconnaît en lui le suprême ascète. Là, un terme qui me paraît très important, c'est le mot d'unité. Et le fait qu'il y a comme une fusion des essences. Je le vois, il me voit, il est en moi, je suis en lui. Est-ce que c'est le point final, enfin si j'ose dire final, après la non-dualité, enfin c'est ce qui arrive après la dualité et donc dans la non-dualité?
Yoga signifie aussi unité, hein, évidemment. Dans la Gita, il y a un adjectif yukta qui est utilisé, qui est donc dérivé de yoga et qui signifie celui qui a trouvé l'unité. Donc effectivement, l'unité est importante parce que c'est le dépassement de la dualité. L'Inde ne parle jamais véritablement, par exemple, d'unité absolue ou de monisme comme en Occident, mais toujours de non-dualité. C'est-à-dire qu'il faut d'abord passer par la dualité, parce qu'on ne peut pas nier que la dualité existe, parce que nous vivons dans la dualité, dans les couples de contraires, dans les apparences. Mais effectivement, là, une fois de plus, c'est l'ascèse, et c'est la compréhension, et c'est la pratique qui doit permettre de dépasser ce niveau de la dualité pour accéder enfin à la non-dualité.
Mais est-ce que ça voudrait dire que dans la vie spirituelle, par exemple, la dévotion au Dieu, qui est dans une forme de dualité, puisqu'il y a une relation avec, par exemple, Krishna, dans lequel il y a une altérité, on va le concevoir comme présent, existant, et on se relie à lui dans l'amour, dans la dévotion amoureuse. Est-ce que c'est une étape qu'il faut dépasser pour arriver à la non-dualité et à comprendre que, finalement, c'était une marche pour cette dévotion amoureuse, pour aller vers une compréhension que finalement le divin impersonnel est en moi et que je fais partie du divin impersonnel.
Certains philosophes, effectivement, n'hésiteront pas à le dire. Shankara, dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, qui est justement le premier commentateur de la Gita, au 8e siècle de notre ère, développe une philosophie parfaitement systématique de la non-dualité, Advaita en sanskrit, où il dit, effectivement, il y a deux niveaux de l'absolu. Il y a l'absolu divin, Dieu, mais c'est un absolu qualifié, dit Shankara. Donc ce n'est pas le terme final. Au-delà du Dieu, il y a pour lui l'absolu non qualifié, c'est-à-dire parfaitement impersonnel. Et là, il donne raison aux Upanishads, en quelque sorte, contre la dévotion. Parce qu'il pense que la dévotion n'est pas le stade final.
C'est une étape. On retrouve un peu cette distinction chez Maître Eckhart, qui fait distinction effectivement entre Dieu qualifié, donc la Trinité, le Christ qui s'incarne, et puis il dit au-delà, il y a la Gottheit, la déité, voilà, totalement impersonnelle, dont on ne peut rien dire, et qui est l'étape ultime, effectivement, de la vie spirituelle. C'est la prise de conscience que on fait partie de ce divin dont on ne peut rien dire.
Et c'est-à-dire, en fait, est-ce que c'est semblable quand même à la tradition apophatique occidentale et d'ailleurs orientale, enfin, dans, je veux dire, dans le soufisme, par exemple. C'est vrai qu'on a tout à fait ça dans la spiritualité musulmane.
Bien sûr, parce que cette tradition apophatique, elle s'enracine déjà dans les Upanishads, hein, dans certains passages où on dit « de l'absolu, on ne peut dire que neti, neti, il n'est pas, il n'est pas, il n'est pas, il n'est pas ceci, il n'est pas cela, il n'est pas saisissable, il n'est, etc., etc. » Et cette tradition qui commence aux Upanishads sera reprise par Shankara et se retrouver complètement dans le bouddhisme également, dans la quête du nirvana.
Et ce qui est quand même étrange avec l'Inde, c'est qu'il y a donc cette tradition, c'est dans les Upanishads, c'est très ancien. Oui. Et en même temps, il y a ce polythéisme incroyable, c'est-à-dire ce panthéon des dieux qu'on représente, qui ont une réalité quasi quotidienne dans la vie des gens. Donc comment s'articulent en fait ces deux moments qui sont totalement à nouveau contradictoires, du moins en apparence?
Ben, si vous voulez, il y a un grand indianiste allemand du 19e siècle qui s'appelle Max Müller, qui a dit qu'il ne fallait pas parler de polythéisme s'agissant de l'Inde, qu'il fallait parler d'énothéisme. C'est-à-dire, il explique que ça signifie qu'il y a à la fois une grande pluralité, effectivement un panthéon invraisemblable de divinités en Inde, et en même temps l'idée qu'il y a un Dieu absolu, et que les deux ne sont pas contradictoires, et que c'est la particularité de l'énothéisme, contrairement au polythéisme gréco-romain. parce qu'au fond, ce Dieu absolu, en quelque sorte, se décline dans une infinité de divinités. Par exemple, si vous êtes allé en Inde, ce qui est très frappant, c'est que vous allez dans le sud de l'Inde, vous allez dans un temple et vous dites, bon, là, c'est Shiva. On vous dit, ah non, 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 pas du tout, c'est pas du tout Shiva, c'est un autre nom. C'est-à-dire qu'il est adoré, mais sous un autre nom. Et vous allez dans un village à 15 km, et là, vous dites, bon, ben là, c'est Shiva. Ah non, non, c'est encore un autre nom. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on vous donne un autre nom. Mais au fond, on sait bien que derrière tout ça, c'est le Dieu absolu, mais qui se, en quelque sorte, qui se ramifie en une infinité de formes différentes, d'aspects différents.
Pour répondre à votre question autrement, Lélie, je crois qu'effectivement, ce paradoxe s'explique du fait même de la théologie apophatique. Mmh. C'est parce qu'on ne peut rien dire de l'absolu qu'on peut tout dire de lui. C'est parce que le Dieu est totalement indéfinissable qu'on peut en voir mille manifestations. Et c'est toute la grande différence avec la théologie positive, où à partir du moment où on commence à définir, à faire de la théologie du divin, etc., alors là, on est dans des définitions très précises, et les choses s'opposent. Il ne peut pas y avoir plusieurs manifestations du divin, alors que dans tous les courants mystiques de théologie apophatique, et on trouve ça partout, et en Inde c'est là que c'est le plus fort évidemment, c'est justement parce que le divin est totalement indicible et impersonnel qu'il peut y avoir mille manifestations, peu importe, on va le vénérer sous des manifestations locales, régionales, qui touchent le cœur, qui touchent plus l'intelligence, mais derrière tout ça, on sait très bien qu'on se relie à quelque chose dont finalement on ne peut rien dire.
Oui, et donc ça voudrait dire que les vrais monothéistes, les vrais unicistes sont justement ces peuples qui ont développé, vous avez dit, un énothéisme. Oui. Parce que d'une certaine façon, lorsqu'Abraham brise les 10 idoles, d'une certaine façon, ça veut dire qu'il est en train donc de briser les représentations de ce Dieu qui est tout. Et donc il détruit quelque chose aussi du Dieu, une part du Dieu.
Mais en Inde, si vous voulez, ça se comprend aussi. Donc, ce que disait Frédéric Lenoir, effectivement, est parfaitement juste. Et il y a cette idée aussi qui est, je pense, très présente dans la culture indienne. C'est cette idée que tout est complémentaire. Ce sont des perspectives différentes. Et il y a un perspectivisme qui est au centre de la philosophie indienne aussi. C'est-à-dire qu'on peut avoir une infinité de perspectives. Elles sont toutes aussi valides les unes que les autres sur l'absolu. Donc effectivement, de l'absolu lui-même, on ne peut rien dire, puisque ça supposerait qu'on est au-delà de la perspective. Or, on ne peut jamais être au-delà de la perspective. Même le plus grand mystique est toujours redevable d'une certaine perspective. On ne peut pas dépasser la perspective. Mais sachant que nous sommes dans une perspective, on sait donc que l'absolu lui-même est au-delà de toute perspective.
Et ce qui rend nul et non avenu toute guerre de religion, et pourtant en Inde ces guerres de religion sont encore aujourd'hui très très vives.
Alors là, je dirais que il y a d'autres facteurs qui
entrent en jeu. Politique.
Voilà, il y a toute la dimension politique, sociale
donc,
aussi. Voilà.
Mais je ne crois pas qu'on puisse la séparer de la philosophie. Donc comment expliquer ça ?
Comment expliquer ça ? Aujourd'hui, l'Inde, elle subit, je dirais, une certaine montée des fondamentalismes, comme d'autres pays aujourd'hui dans le monde. Hein. C'est assez regrettable parce que ça risque effectivement de produire des situations très conflictuelles, peut-être même plus que conflictuelles, à mon avis, extrêmement dangereuses. Mais en même temps, je suis plutôt optimiste dans la mesure où l'Inde a su accueillir en son sein et dans sa culture des traditions tellement différentes. Par exemple, aujourd'hui, moi j'adore la musique indienne classique. Si on adore la musique indienne classique, on ne peut qu'adorer aussi la musique iranienne, parce qu'on sait très bien qu'il n'y aurait pas de musique indienne classique dans le nord de l'Inde s'il n'y avait pas eu toute la civilisation moghole. Donc je dirais que l'Inde, c'est quand même un pays qui a su énormément, je dirais, assimiler des traditions différentes. Alors il se peut qu'aujourd'hui on soit dans une période de crispation, mais probablement parce que les politiciens eux-mêmes ne font que manipuler cette crispation à des fins politiciennes. Mais je crois que l'Inde a des capacités de dépasser ces oppositions. Parce qu'il y a eu même de grands saints soufis en Inde qui côtoyaient les hindous. Donc il y a énormément d'exemples
de
ce genre.
Mais les tensions sont essentiellement entre hindous et musulmans, ou il y a aussi des tensions inter-hindous entre différents courants spirituels.
Plutôt entre les hindous et les musulmans, oui. Plutôt. Parce qu'entre shivaïtes et vishnouïtes, par exemple, bon oui, quelquefois ils peuvent... contester des temples, etc. Mais en réalité, ils savent bien qu'ils font partie de l'hindouisme. C'est plutôt, effectivement,
donc, un rejet de...
Ouais, et est-ce que la philosophie indienne, telle qu'on en a parlé aujourd'hui, est encore vivante dans les générations, dans les jeunes générations indiennes? C'est-à-dire, est-ce que... Parce que c'est vrai que l'Occident est complètement amoureux de cette philosophie indienne, il y a un engouement réel, il n'y a qu'à voir le nombre de traductions de la Bhagavad Gita qui sont parues ce dernier siècle, en quelque sorte. Mais est-ce que les Indiens eux-mêmes ont cela? C'est-à-dire, est-ce qu'ils portent cette tradition? Est-ce qu'il y a il y a un développement de cela, un engouement, un amour de ces textes, une pratique aussi?
Si vous voulez, il y a à peu près une vingtaine d'années, on pense à la situation était plus critique parce que par exemple, moi j'avais travaillé dans le sud de l'Inde à Tirupati, dans une université où tous les cours sont faits en sanskrit. Et donc certains me disaient, oui, là il y a moins d'étudiants qu'auparavant, donc les gens étaient assez pessimistes. Et il se trouve que ce mouvement s'est inversé, que depuis une dizaine d'années, il y a de nouveau un regain d'intérêt de la part des jeunes indiens pour la culture ancienne, donc pour leur propre culture. Hein, pour les textes sanskrits, pour les textes bouddhiques ou les textes brahmaniques. Probablement parce qu'ils ont compris aussi qu'on ne pouvait pas que se tourner vers le commerce ou l'informatique et qu'ils avaient quand même une culture d'une immense richesse et qu'il serait dommage que les Occidentaux soient les seuls, au fond, quand même à être les conservateurs de la culture indienne en laissant les Indiens de côté.
Et parce qu'il y a beaucoup de maîtres aussi, enfin, de contemporains.
Il y a beaucoup d'ashrams.
Beaucoup d'ashrams.
Ça continue. Il y a toujours cette tradition des ashrams qui est très importante. Hein. Alors souvent qui peut-être attire quelquefois plus d'occidentaux
il
que
semblait,
d'indiens.
Oui.
Par exemple, à Pune où je vivais, bon, il y avait un grand maître de yoga qui s'appelait Iyengar. C'est vrai que dans l'école d'Iyengar, il y avait plus d'occidentaux à l'époque où j'y étais que d'indiens. Mais là aussi, j'ai l'impression que ce sont des choses qui sont en train de changer. Les Indiens sont quand même en train de redécouvrir qu'ils ont une très grande tradition philosophique, théologique, logique. Ils ont eu de très grands logiciens, de très grands dialecticiens, et qu'il serait vraiment dommage qu'ils tournent le dos à cette tradition.
Et c'est intéressant que donc vous parliez d'ashram, puisque ça veut dire que la transmission de la philosophie, si elle se fait dans des ashrams, ça veut dire qu'elle se fait un peu comme dans les écoles antiques. Avec un maître, avec des élèves,
oui.
Des ascèses, etc.
Mais par exemple, moi, je travaillais à l'université, dans un centre qui était un centre dédié au sanskrit. Mais il y avait effectivement de grands maîtres, quand même, étrangers à l'université, qui venaient, je dirais, dispenser un enseignement. Et j'étais très frappé de voir que mon professeur de logique, donc qui était quelqu'un de très sérieux, un jour que son maître est venu à l'université, il s'est jeté à ses pieds en prosternation. C'est-à-dire que là, il retrouvait quand même la tradition où on doit effectivement se prosterner aux pieds de son maître, alors qu'on était pourtant dans un cadre complètement universitaire. Donc on voit bien quand même qu'ils ont quand même conscience d'être à cheval là aussi sur la modernité, hein, que nous avons apporté ou qu'ils ont apporté de l'Occident, et en même temps cette tradition quand même qui reste vivante et qui doit rester vivante.
Merci beaucoup Marc Balanfa, je rappelle la traduction de la Bhagavad Gita chez Garnier Flammarion. Merci à vous.
Merci.